Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose, de manière fortuite ou non, sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. Rencontre avec la Seconde Guerre mondiale entre déni et silenciation. Épisode 10, rafle du 9 octobre 1942, directive et compte-rendu de la gendarmerie du Maine-et-Loire. Dans cet épisode, je comptais vous faire entendre la parole de Jeannine Dery, historienne, qui travaille au mémorial de Bergen-Belsen. Mais hier, mon fils Julien, qui est étudiant en histoire à Angers, est allé aux archives départementales du Maine-et-Loire et a consulté les archives contenues dans « Rafle du 9 octobre 1942, directive et compte-rendu ». Ce dossier contient deux documents qui prouvent que la rafle du 9 octobre 1942 est bien la grande rafle oubliée, ordonnée par les nazis et coordonnée par la France de Vichy et les SS. Lecture du courrier en date du 8 octobre 1942. 9e Légion de Gendarmerie, Compagnie de Maine-et-Loire. Angers, le 9 octobre 1942. Le lieutenant-colonel Chambon, commandant de la compagnie de gendarmerie du Maine-et-Loire, à monsieur le colonel commandant la Légion de Gendarmerie. J'ai l'honneur de vous rendre compte de ce que, le 7 octobre à 15h, mon Führer adjoint a été, en mon absence, convoqué par le commandant des SS d'Angers, en même temps que le commissaire central de cette ville. Les instructions ci-après, absolument impératives, leur ont été données. À la suite d'instructions données par le Führer et le général Göring, il a été décidé que dans les territoires occupés d'Europe, tous les Juifs seront arrêtés, à l'exception de ceux de nationalité française. En ce qui concerne le Maine-et-Loire, les opérations d'arrestation seront effectuées par les forces de police françaises avec l'aide et sous le contrôle des SS. La gendarmerie se charge des arrestations en dehors d'Angers et la police municipale dans cette ville. Ces dispositions sont rigoureusement secrètes est souligné, et devront le rester jusqu'à mise à exécution, le vendredi 9 octobre à 9h du matin. Les SS ont actuellement trop d'occupations pour procéder eux-mêmes aux arrestations. Il s'agit d'arrêter tous les Juifs étrangers. Tout et étranger est souligné. Sans distinction d'âge, de sexe, d'état de santé, l'opération doit être menée sans pitié. Le lieu de rassemblement à Angers ainsi que les conditions d'alimentation des Juifs arrêtés est l'affaire du préfet. Les Juifs étrangers seront arrêtés à leur logement. Ils ne pourront prendre avec eux que les objets indispensables. Deux couvertures, deux paires de souliers, les objets de toilette, des denrées périssables, du linge personnel. L'arrestation et le transfèrement ne doivent donner lieu à aucune manifestation. Dès l'arrestation, il faudra enlever à chacun sa carte d'alimentation, sa carte de textile, ses papiers d'identité, son argent, ses objets de valeur, tout ce qui est en or en particulier. Laissez toutefois les alliances. Ramassez de même toutes les clés. Tous ces objets et valeurs seront déposés dans une enveloppe portant le nom de leur propriétaire. Les enveloppes seront remises au SS le vendredi 9 à 22h, dernière limite. La porte des logements sera fermée par les soins de la police et la clé placée dans l'enveloppe dont il est question ci-dessus. Vendredi 9 à 18h, les opérations d'arrestation doivent être terminées. Nul ne sera autorisé à pénétrer dans le local de rassemblement désigné par le préfet. Si des Juifs sont propriétaires de bétail, ce bétail sera pris en charge et nourri par les soins du maire intéressé. Les volailles et les lapins seront distribués aux voisins. Les moyens de transport sont à prévoir par la police française. Copie à Monsieur le préfet régional. Signé par le lieutenant-colonel Chambon. On notera la précision de l'organisation et l'absence totale d'humanité de cette lettre. Le deuxième document est écrit par le préfet de la Loire inférieure. En voici la lecture. Préfecture de la Loire intérieure, État français, Nantes, le 9 octobre 1942. Le préfet de la Loire inférieure à Monsieur le préfet délégué du ministère de l'Intérieur, secrétariat général pour la police, à Monsieur le préfet national, cabinet. Objet : arrestation d'Israélites. J'ai l'honneur de vous rendre compte que je viens d'apprendre que la police allemande de sûreté a procédé aujourd'hui à l'arrestation de 38 Israélites. D'après les opérations que j'ai pu recueillir, des opérations analogues se poursuivraient dans les jours suivants. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Je dois ajouter qu'il ne reste en ce moment aucun juif, tant d'origine française qu'étrangère, dans toute la zone côtière de la Loire inférieure. Le préfet. Il semble que l'administration et que la gendarmerie vichiste française soient encore une fois allées plus loin que la demande, puisqu'il ne reste aucun juif, tant d'origine française qu'étrangère. Cette scène d'arrestation est une zone sans représentation et sans compréhension pour ma propre famille. Comme je l'ai écrit dans « Il ne faudra plus raconter des histoires », le livre de Jean, 1942-1945, « Un enfant dans les camps », publié chez l'Harmattan. Ce qu'Odette ne raconterait pas, aussi, à Sandrine, ce serait l'arrestation, chez elle, à Mansiol, alors qu'elle vient de revenir avec Jean et Josette, qui ont respectivement 4 ans et 6 mois. Qui sont les hommes qui l'arrêtent? Combien sont-ils? Elle fait des bagages, beaucoup de bagages. Elle se prépare pour un long séjour. Elle emporte notamment un pot de chambre ainsi que du lait en poudre et de la blédine pour le bébé. À Drancy, cela nourrira aussi Francine Christophe, parce que Josette mange peu. Sandrine se demande encore le temps qu'a pris la confection des paquets. Elle imagine une heure au moins. Elle revoit sa grand-mère quand elle partait en vacances dans le sud de la France à la fin de sa vie. Il y avait au moins 4 énormes valises, une sorte d'équipage, comme elle l'avait lu dans les récits des déplacements des grands seigneurs. Peut-être qu'en réalité, cela a pris 10 minutes. Ils sont arrivés la veille au soir chez eux. Elle s'était cachée un temps avec ses enfants, dans la famille de son frère, en Bretagne. Elle revient chez elle. Elle est française. Elle est femme de prisonnier de guerre, directeur du personnel dans l'industrie chimique. Elle n'a sans doute pas défait les paquets de l'exil. Cette fois, on va la forcer à l'exil et la déporter, lui ôter tout droit humain. Sandrine regarde le trio qu'il compose. Une femme grande, les yeux bleus, elle se tient très droite. Elle appartient à la grande bourgeoisie française. Elle parle très bien, elle est cultivée. Un enfant de 4 ans, aux cheveux bouclés châtain clair, vêtu richement, grand pour son âge. Il est très joyeux. Il a déjà un regard profond et percutant. Le bébé Josette est emmailloté avec soin. Des boucles blondes sortent de ses bonnets. Elle a les yeux bleus, la peau très blanche, comme les princesses du XVIIe siècle. Sandrine voit la femme et les enfants, mais elle ne voit pas les hommes qui les arrêtent et qui attendent le temps de prendre le pot de chambre et le lait en poudre. Que font ces hommes pendant que la femme prépare ses bagages? À quoi pensent-ils? Cette femme et ses enfants ne ressemblent-ils pas à leur femme et à leurs enfants? Odette porte l'étoile jaune que son mari est allé chercher à la mairie de Mansiol pour les déclarer juifs. C'est tout ce qui la différencie des autres. Elle ne la porte sans doute pas chez elle. Sandrine est certaine que, ce jour-là, elle ne porte pas l'étoile jaune. Odette ne voulait pas, elle disait que c'était un piège. Marcel fait confiance à la France, le pays des droits de l'homme, terre d'accueil des exilés et aux mots gravés dans la pierre. Liberté, égalité, fraternité. Cette étoile jaune est tout ce qui la différencie des autres Français. Elle le répétera partout, tout le temps, à qui ne veut pas l'entendre. Elle est française. Comment pouvez-vous faire ça à une femme française ? Sandrine tente de se mettre du côté de ceux qui arrêtent sa grand-mère, son père et sa tante. Mais c'est un point aveugle. Comme c'est un point aveugle ceux qui détruisent les tentes des exilés en France, à coups de cutter. Elle sait bien que de loin, à partir d'images, on peut se raconter que certains humains sont des nuisibles et même des envahisseurs. Elle se souvient des mots d'un critique de cinéma qui racontait comment les États-Unis s'étaient construits non sur l'union, mais par les frontières et sur l'idée du mal caché dans un corps humain en apparence normale. Il avait dit que ces thèmes, les frontières et le mal, étaient une obsession qui revenait sans cesse, en particulier dans les films grand public, ceux que toute la planète regarde en boucle. Oui, mais quand même, il lui serait absolument impossible d'arrêter une famille, de la serrer des tentes, même mue par la haine ou incitée par l'État lui-même. Est-ce que la haine qui habitait des hommes venus arrêter une femme et deux enfants en bas âge les envahissait à ce point ? Le préfet Maurice Papon avait parlé d'obéissance et de devoir envers l'État. C'était sa défense. Il n'avait pas osé parler de haine. C'était pourtant tout ce qu'elle lisait et entendait dans les propos et actes racistes. Ils étaient soutenus par la haine. Il fallait se débarrasser des nuisibles. Sandrine avait sursauté quand on lui avait demandé d'être. Elle ne réussissait jamais à retenir le mot. Un mélange entre loyal et servile en toute situation. Dans une formation pour formateur. Elle savait qu'elle désobéirait, qu'elle ne pourrait pas dire ce mot, que c'était un mot dont elle ne pourrait jamais se souvenir. Non, ce qui l'angoissait depuis toujours, c'était sa propre indifférence, sa capacité à laisser faire, à ne pas intervenir. Elle comprenait mieux la femme du geôlier de la prison de Briey, qui pleurait sur la femme aux six beaux enfants et leur servait du chocolat chaud. Mais n'avait pas ouvert la porte de la prison. Cette femme avait eu peur pour son confort et pour sa vie. Un ami auquel j'ai envoyé ces documents m'a écrit « Les mots manquent pour cette inhumanité. J'imagine celui ou celle qui a tapé ce texte. » Janine Dery m'a justement parlé du cas d'une secrétaire. Vous allez donc finalement l'entendre un peu, qui se présente et présente une exposition itinérante et parle d'une secrétaire qui savait, dès son entrée en fonction.
Je suis historienne et je travaille au mémorial de Bergen-Belsen, dans des projets du mémorial de Bergen-Belsen. Et c'est en 2024 qu'on a inauguré une exposition sur Bergen-Belsen en tant que lieu du crime. C'est-à-dire, à Bergen-Belsen, il y avait plusieurs camps et on s'est penché sur les crimes et sur les bourreaux de Bergen-Belsen. En effet, en Allemagne, on ne parle pas vraiment de bourreaux, on parle de responsables et coupables et on a le mot « Täter » pour cela. Donc, en France, on dit « bourreau » pour exprimer cela. Et là, il y a une femme, Hildegard Komorowski, qui était une catholique croyante. Et quand elle est arrivée aux affaires étrangères et quand elle a travaillé, quand elle a commencé à travailler avec von Thaddeus, elle se souvient, après, en 1947, que quand elle a commencé à travailler avec von Thaddeus, elle avait été ahurie des tâches qu'ils avaient. Mm-hmm. C'est-à-dire s'occuper des Juifs et des exemptions pour les Juifs, mais ça n'a pas toujours abouti. Et de ce fait, elle savait que les Juifs déportés à l'Est allaient être assassinés. Mmh. Et qu'on était déjà en train de les assassiner. Mmh. Et donc, elle dit que ben, vaguement, elle avait su que la politique des nazis visait à assassiner, exterminer tous les juifs, mais que dans ses nouvelles fonctions qu'elle venait de prendre aux affaires étrangères, elle voyait tous les jours les sorts individuels. Donc, oui, le sort individuel. Et que ça l'avait choqué au début, surtout au début, mais en effet, elle a continué à travailler là-bas. Elle a surmonté son choc. Elle n'a pas cherché d'autres fonctions. Elle aurait pu partir. Elle ne l'a pas fait. D'où ce ne sont pas seulement les hommes en quelque sorte au pouvoir ou qui font une carrière, mais ce sont aussi les employés de bureau, les secrétaires, etc., qui participent en quelque sorte, en ne pas refusant de telles tâches, en ne pas cherchant d'autres emplois.
C'était l'épisode 10, rafle du 9 octobre 1942, directive et compte-rendu de la gendarmerie du Maine-et-Loire.